Sous un soleil de plomb, Courfeyre sans nuages, faut le voir.
Magnifique. On est juste à côté de vieux souvenirs, certainement, hein, pour certains. Juste à côté de l'ancienne usine Condor, ici à Courfeyre. Et on s'approche, alors c'est rigolo, parce qu'on dirait que c'est une petite maison hors du temps. Hein, parce qu'on a la grande usine, là, puis là, la petite maison, tout en bois. D'ailleurs, il y a du bois partout. Là, je crois qu'on y est parce que ça sent bon.
Bonjour.
Blaise.
Okay.
Bonjour. Cette maison, elle est entre nous, comme ça, elle rayonne. Je disais, quand on est arrivé là, on dirait que cette maison est restée comme ça, figée, hors du temps. C'est quoi, en fait, cet atelier ici ?
C'était l'ancien atelier de menuiserie de l'usine Condor. Avant qu'ils construisent la dernière halle à côté, il y avait une rangée de cabanons comme ceux-ci, en une pièce qui faisait 50 à 70 mètres de long, voilà, au bord des voies de chemin de fer. Et puis, dans ces cabanons, ils faisaient le déballage des pièces, l'emballage des vélos moteurs pour l'expédition. Donc il y avait toute une vie, un va-et-vient entre les halles de fabrication de pièces, de montage et puis d'emballage. Et puis l'atelier de menuiserie ici servait à faire préparer les caisses, la caisserie pour l'expédition. Et puis aussi des travaux d'entretien dans l'usine.
Comment vous êtes arrivé ici ? Si j'ai bien compris, vous, à la base, vous êtes d'origine vaudoise ?
Oui, exactement. Donc on est venu s'établir dans le canton du Jura. Il y en a quand même de temps en temps, là, il faudrait un peu plus, des vaudois ou autre chose, mais... Mais voilà, on a repris la maison des grands-parents de mon épouse. Puis petit à petit, j'avais fini une formation. Mon épouse finissait aussi l'université. Elle devait faire son travail de mémoire. Donc ça permettait d'être ici puis de faire le travail de mémoire. Puis petit à petit, en continuant mon projet de départ de constituer un atelier de charronnage pour reprendre ce métier... Finalement, les locaux ici à l'usine étaient libres et puis j'ai trouvé celui-ci qui me convient particulièrement bien parce que d'une part il est en bois alors que tout le reste de l'usine c'est du béton et c'est beaucoup plus humide, beaucoup plus froid. Et puis là j'ai une bonne température en été, une bonne température en hiver, donc hein, avec le bois qui emmagasine bien les chaleurs puis qui isole aussi du trop chaud. Et puis pour les machines, c'est aussi l'idéal, c'est sec, c'est stable. Et puis je suis le seul qui, enfin maintenant il y en a un qui a installé, un autre locataire qui installe un chauffage, mais j'étais le seul à pouvoir me chauffer, donc voilà.
Ici on a un char, hein, je peux l'appeler comme ça, hein.
Oui.
Char d'attelage.
Je m'occupe de toute la partie bois.
Entièrement.
Entièrement, oui. Et aussi de plus en plus la partie forge, parce qu'on n'a plus forcément des forgerons sous la main. Donc avant, les charrons forgerons travaillaient côte à côte dans les villages. Ouais. C'est des ateliers voisins ou peu éloignés. Et puis dans le temps, vu qu'il y avait énormément de travail, ils se partageaient le travail. Donc toutes les parties métalliques étaient fabriquées et posées par le forgeron ou le maréchal forgeron. Et puis le charron faisait la partie bois. Par exemple, pour une roue, il y a un va-et-vient. Dans la fabrication complète d'une roue, la roue va voyager 5 à 6 fois entre l'atelier du charron et l'atelier du forgeron. Avant, quand il y avait énormément de demandes, les ateliers de charronnage avaient les gabarits pour les jantes, donc ils faisaient toujours les mêmes jantes. Et puis les rayons, ils avaient déjà des lots de rayons façonnés d'avance, ce qui leur permettait de vraiment fournir la construction d'une roue dans la journée.
Oh, dis donc.
Maintenant, c'est plus nécessaire. Donc,
Quel délai vous allez accorder à votre client ?
Alors, ça dépend. Déjà, il faut placer l'objet à faire dans le programme. Et puis ensuite de ça, il faut le réaliser. Donc moi, je me donne un délai actuellement d'un mois ou deux mois parce que je ne suis pas toujours sur place. Et puis j'espère améliorer mes délais bientôt.
Mais qui vient vous voir alors ?
Les attelleurs pour l'attelage de loisirs principalement, parce que c'est vrai que pour les concours d'attelage, on n'utilise pas ces véhicules-là. Ils n'ont pas été construits pour faire des marathons, pour prendre des virages à grande vitesse, glisser sur le côté et autres. Et puis donc c'est essentiellement pour le loisir ou pour l'attelage tradition. Il y a aussi des compétitions dans ce domaine-là. Ou pour le dressage. Où là, les concours de dressage, les participants sont aussi notés par rapport à l'aspect général de l'attelage, l'allure des chevaux, la présentation de l'atteleur lui-même, sa tenue. Enfin, c'est très complexe. Dans les ateliers de charronnage, les gros ateliers de charronnage, qui fonctionnaient des fois avec une dizaine d'employés, ils pouvaient travailler sur 4 véhicules en même temps.
C'est une vraie industrie.
Moi, c'était une industrie monstrueuse parce que, en fait, la période la plus forte de ce métier-là, où il y a le plus grand développement, je dirais, c'est entre 1850 et 1930. Où là, il s'est construit énormément de véhicules. Et la demande était très forte parce que tout le monde pouvait enfin ou voulait avoir son véhicule pour se déplacer. Donc, il y avait des véhicules de tout type. Les ateliers de charronnage fonctionnaient vraiment à fond. Chaque place de travail a un charron spécialisé dans son domaine. Donc, il y avait un charron au train. Donc, lui, il faisait tout ce qui était en dessous de la caisse. Puis ensuite, un charron à la caisse. Puis un autre charron qui faisait que les roues.